Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes.
Bonjour Samuel Cohen-Salmon. Pour La Voix des Songes, aujourd'hui, c'est vous l'invité de votre propre émission. En effet, vous avez proposé, Samuel, une nouvelle forme de cette émission dans laquelle nos auditeurs et auditrices le savent, vous présentez ce que c'est que l'analyse des rêves, vous présentez ce qu'est la mythologie aussi et combien vous vous appuyez sur cette histoire, sur cette science pour avancer dans cette connaissance de l'inconscient. Vous m'interrompez si je ne dis pas tout à fait les choses telles que vous voudriez que je les dise.
Non, pour l'instant, c'est bon.
Ça va encore. Et aujourd'hui, Samuel, vous êtes l'invité de votre propre émission. Vous êtes votre invité. À mon tour de vous questionner, de vous analyser, d'analyser vos propos sur, voyons voir, Samuel, qu'est-ce que l'analyse des rêves tels que vous allez le concevoir dans les prochaines semaines ?
Alors justement, en général, on parle plutôt d'interprétation des rêves et on me questionne autour de qu'est-ce que c'est qu'interpréter un rêve, comment on interprète un rêve. Et justement, ma position originale, c'est celle d'être analyste de rêve, donc de faire ce pas de côté. Et l'intérêt des précédentes émissions, des émissions qui continuent d'être enregistrées dans La Voix des Songes, c'est justement de tracer une perspective historique pour comprendre comment on est passé de l'interprétation des rêves à l'analyse des rêves.
Finalement, jusqu'à maintenant, vous nous avez donné tout l'appareil théorique, historique, sur lequel la science, la connaissance.
Bah, pour l'instant, et je pense qu'au moins jusqu'à Noël, on continuera à essayer de regarder comment justement les anciens, durant l'Antiquité, on interprétait les rêves, on a vu jusqu'à maintenant en Mésopotamie, mais on va très bientôt s'intéresser aussi à l'Égypte et bien entendu à la Grèce, qui a été une grande école de pensée, une grande ère civilisationnelle pour le développement de l'art de l'interprétation des rêves. Et jusqu'à maintenant, on a vu que les rêves étaient soit pas du tout interprétés, par exemple ce qu'on appelait les cauchemars ou les rêves démoniaques, où là on essayait de se prévenir par des rituels pour les mettre à distance. Soit on essayait d'obtenir des rêves divins, qui là non plus n'étaient pas interprétés, puisque le message d'un dieu n'était jamais remis en question, ou alors on essayait d'obtenir des rêves prophétiques, qui là étaient plus ou moins symboliques, mais qui étaient interprétés par des méthodes qui aujourd'hui, on les retrouvait plutôt chez les voyants. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre l'interprétation et l'analyse. Après, l'interprétation a aussi beaucoup évolué au cours du temps. Là, on est dans des époques très lointaines.
J'ai aussi entendu dire que les Indiens d'Amérique ont une très grande connaissance des rêves. Est-ce que ça fait partie de votre background de psychanalyste ?
Alors, moi, je m'intéresse plutôt justement à la filiation, on va dire, européenne, occidentale, qui s'origine d'abord entre l'Euphrate et le Tigre, en Mésopotamie, et aussi au bord du Nil, donc qui ont des origines mésopotamiennes, égyptiennes, et qui ont trouvé, finalement, comment dire, qui se sont rassemblés, qui se sont réunis dans cette espèce de, j'allais dire, de creuset fécond qu'a été la Grèce antique. Maintenant, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui s'est passé dans d'autres cultures. Par exemple, en Inde, il y a une vraie tradition aussi. En Chine, on sait très bien dans l'Afrique subsaharienne, chez les aborigènes, et bien entendu, dans les peuples à chaman ou dans les peuples à medicine man en Amérique. Mais ce n'est pas ce qui a fondé notre tradition qui a permis, par exemple, l'émergence au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, de la psychanalyse. La psychanalyse s'est construite à partir des rêves, puisque l'ouvrage fondateur de la psychanalyse, c'est l'interprétation des rêves. Et là, encore une fois, on parle d'interprétation. Et puis ensuite, il y a Jung aussi, qui a ouvert d'autres perspectives, mais qui lui aussi parlait d'interprétation et qui avait une approche très européenne et très traditionnelle. Alors, une petite anecdote, par exemple, pour l'Amérique du Nord, puisqu'on en parlait, par rapport aux Dreamcatcher, aux attrape-rêves. Donc ça, c'est une tradition qu'on attribue à l'ensemble de la culture amérindienne. En réalité, à la base, les Dreamcatchers, on n'en trouvait que dans la tribu des Lakota, une tribu bien particulière. Et c'est lié à un mythe fondateur de cette tribu-là, où au départ, ils vivaient que dans des endroits bien circonscrits. Et c'était une araignée, une divinité sous la forme d'une araignée, qui prenait soin en fait des enfants et qui tissait sa toile au-dessus des lits des enfants pour les protéger des mauvais rêves. Le problème, c'est que ce peuple s'est développé, a gagné beaucoup plus de territoire, et donc cette divinité ne pouvait plus protéger tous les enfants de son peuple. Donc elle a enseigné aux grands-mères et aux mères comment en fait faire des attrape-rêves, comment fabriquer des attrape-rêves qui ressemblent en fait à des toiles d'araignée. Voilà.
C'est adorable.
Voilà, donc ça c'est un mythe Lakota. Et en fait, c'est durant la redécouverte de la culture amérindienne dans les années 50-60 aux États-Unis qu'il y a eu un amalgame et on a considéré que l'attrape-rêve était l'archétype, ou en tout cas l'outil culturel de tous les Amérindiens, alors qu'en réalité, à la base, ça ne concerne que les Lakota. Mais bon, voilà, ça c'est une petite anecdote par rapport au rêve, comme quoi je m'intéresse aussi aux autres cultures.
Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette distinction pour vous qui est absolument fondamentale entre l'interprétation et l'analyse. Ces deux termes, on pourrait, si on n'est pas dans le métier, les confondre ou se dire que c'est à peu près la même démarche, mais j'entends que ce n'est pas tout à fait ça.
Ah, il y a même beaucoup de thérapeutes qui ne font pas du tout la différence, justement, mais elle est fondamentale. Interpréter, ça veut dire donner du sens. Analyser, ça veut dire décortiquer pour comprendre. Donc si on se place du point de vue de l'interprète, si on se définit comme interprète de rêve, alors notre rôle sera de donner du sens aux rêves des gens. Et donc quelqu'un qui vient en psychothérapie, il va raconter un rêve, et on va lui dire, votre rêve, il veut dire ça. Et donc vous devez agir de la sorte, vous devez faire ceci. Et donc là, il y a une prise de pouvoir qui est, de mon point de vue, pas du tout éthique, et qui n'est même pas du tout admissible. C'est-à-dire que la personne, elle peut pas advenir en tant que sujet, mais elle reste objet de l'interprétation de l'autre.
Qu'on lui impose, finalement.
Qu'on lui impose. Donc, l'autre va lui imposer ses croyances, va lui imposer sa vision de voir son rêve, mais va pas lui permettre de faire sortir sa manière singulière de concevoir les choses. L'analyse, justement, est là pour permettre... face à ce vide de sens, parce que c'est quand même ça qui fonde la démarche thérapeutique, c'est qu'on vient parce qu'il y a un vide de sens. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on n'en comprend pas les causes, on aimerait que ça change, mais on ne trouve pas les solutions. Donc il y a un vrai vide par rapport à cela. Et l'analyste, il n'est pas là pour combler le vide. L'analyste, il est là pour aider la personne à combler son vide. Et c'est ça qui est important. Donc vis-à-vis des rêves, l'analyste, il va aider justement à décortiquer le rêve pour que le rêveur ou la rêveuse puisse l'interpréter.
À sa façon.
À sa façon, voilà.
On parle beaucoup de la symbolique des rêves. Dans ce que vous dites, j'entends aussi qu'un symbole n'est pas nécessairement universel.
Ah, ça c'est une question très importante. Il y a une universalité de certains symboles, ou en tout cas, au moins dans une ère culturelle, on retrouve des symboles qui correspondent à peu près tous à la même chose. Mais l'important, justement, dans une analyse, c'est de faire émerger la singularité du sujet. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas vraiment à ce que ça veut dire dans notre ère culturelle, tel symbole, mais on va s'intéresser à ce que ça veut dire pour la personne. Je prends souvent l'exemple typique du chat noir. Dans notre culture, le chat noir, c'est pas un très beau symbole. Ou en tout cas, il y a encore dans notre croyance populaire que l'apparition d'un chat noir, même en rêve, présage de choses assez dures, assez terribles. Sauf que, imaginez une personne qui, dans l'enfance, a eu pour animal de compagnie un chat noir. J'ai eu une patiente, c'était ça. Elle avait un chat noir quand elle était petite, et donc elle rêve très souvent de chat noir. Mais pour elle, c'est absolument pas un mauvais présage. Il n'est même pas du tout question de présage, puisqu'il est question de son passé, de sa prime enfance, avec laquelle son meilleur ami, sa peluche vivante, c'était un chat noir.
Le chat noir s'associe à un plaisir.
Pour elle, oui. Pour elle, oui. Et donc, c'est ça qui est important. Le but d'une analyse, justement, c'est pas de venir coller à une clé des songes culturelle ou universelle, mais c'est justement d'être capable d'écrire sa propre clé des songes. C'est-à-dire que, à la fin d'une analyse, on sait qu'on a notre clé des songes qui est à nous. Ces symboles, ils veulent dire ça pour nous et pas forcément pour les autres. Et ça, c'est très important, de faire émerger la singularité du sujet.
Est-ce que vous pensez, Samuel Cohen-Salmon, qu'on peut influencer ses rêves ?
Ah, il y a beaucoup de méthodes qui fleurissent actuellement, des méthodes de psychologie comportementale. Et au niveau des rêves, il y a ce qu'on appelle le rêve lucide. C'est-à-dire la capacité ou la possibilité d'être conscient qu'on est en train de rêver. C'est un peu, c'était suite au film, c'était Inception, où justement, on rentrait dans les rêves, on avait conscience qu'on était en train de rêver, et donc on pouvait en modifier le scénario. Et c'est là, en fait, le but de cette approche psychothérapeutique. Alors, j'en ai parlé récemment, et je pense qu'il faut quand même insister là-dessus, parce que c'est des méthodes qui se développent. Ce sont des approches comportementales, donc qui nécessitent d'abord un important conditionnement. Il y a un important conditionnement pour arriver à pouvoir déjà être conscient qu'on est en train de rêver. Et puis ensuite, il y a un important conditionnement pour être capable, une fois qu'on est conscient qu'on est en train de rêver, de pouvoir modifier le scénario du rêve. Par exemple, si on est poursuivi, on fait un rêve récurrent où on est poursuivi par un monstre ou un animal terrible ou un parent dont on n'arrive pas à se débarrasser, eh ben, l'idée derrière tout ça, c'est de trouver dans le rêve, insomnia, la solution pour pouvoir échapper à celui qui nous poursuit. La limite à cette méthode, il y en a même deux limites à cette méthode. D'abord, c'est du conditionnement. Donc, ça, c'est déjà une limite éthique, de mon point de vue. Ensuite, c'est pas parce qu'on fait toutes ces méthodes de conditionnement qu'on va y arriver. Ou en tout cas, ça prend un certain temps. Je connais des gens, ça fait un an, voire plus, qu'ils se conditionnent pour arriver à être lucides dans leurs rêves, ils y arrivent toujours pas. Mais par contre, ils sont toujours poursuivis. Pendant ce temps-là, ça continue. Et donc, la dernière limite, et qui pour moi est la plus importante, c'est qu'on questionne jamais la cause du problème. On essaie d'éliminer le symptôme, ou en tout cas de le mettre à distance, mais l'origine du symptôme, eh bien, elle n'est jamais questionnée.
Alors que l'analyse des rêves, justement, va aller jusqu'à questionner ce symptôme.
Ben, toute approche analytique avec les rêves, ça offre, on va dire, un scénario onirique qui est beaucoup plus précis et qui permet de rentrer plus facilement et plus vite dans les détails, mais toute approche analytique a pour but de questionner l'origine des symptômes. Il y aura toujours ces deux écoles, celle qui veut éliminer le symptôme sans s'occuper des causes, et qui arrive très vite et très bien, mais le problème c'est que la cause elle est toujours active. Donc il y aura toujours des rejetons de cette cause qui émergeront soit sous la même forme, c'est-à-dire le symptôme reviendra plus tard, soit sous une forme bâtardisée, mais un autre symptôme réapparaîtra. Mais en tout cas, les approches comportementales ont cet avantage, c'est vrai, d'apporter une disparition du symptôme assez rapide. L'approche analytique, celle dans laquelle je m'inscris, elle a pour idée d'aller chercher la cause du problème pour pouvoir l'éliminer durablement. Donc, elle est plus efficace sur le long terme, mais c'est vrai que ça prend au départ plus de temps d'aller justement chercher la cause, puisqu'en général, elle est bien cachée, bien enfouie, et elle est travestie derrière de nombreux symboles.
Est-ce qu'une analyse des rêves s'inscrit dans une analyse classique ?
Oui. Par exemple, la psychanalyse continue à beaucoup travailler sur les rêves. Le rêve reste quand même un outil important dans une psychanalyse, mais bien que je sois d'orientation analytique, je ne suis pas psychanalyste. Donc j'ai une approche qui est déjà assez différente et je n'hésite pas à sortir un peu des sentiers battus ou en tout cas des rails qui sont imposés par la psychanalyse ou par l'approche psychanalytique, ce qui m'offre déjà une ouverture d'esprit et surtout une approche beaucoup plus en accord avec les patients. C'est-à-dire que la limite de la psychanalyse, c'est qu'elle aussi, elle interprète les rêves. Quand Freud dit « le rêve, c'est l'accomplissement d'un désir inconscient en lien avec la sexualité infantile », et ça n'est que ça, quand il dit ça, en fait, il interprète déjà le rêve. Puisque ça ne peut être que ça, un rêve, au final. On ne peut l'interpréter que dans cette voie-là. S'il n'y a qu'une manière de concevoir le rêve, en réalité, on l'interprète. Ce qui fait qu'en psychanalyse, avant même d'avoir entendu un rêve, vous savez ce que vous allez trouver. Vous allez retrouver l'accomplissement d'un désir inconscient en lien avec la sexualité infantile, peu importe ce que la personne vous dira. Donc ça, c'est une limite quand même.
Lorsque on commence une analyse, la grande question que chacun se pose, c'est combien de temps cela va durer ? Est-ce que la question de la durée dans l'analyse des rêves est aussi cruciale ?
Ah, la question la plus importante, c'est la question de l'argent, d'abord. C'est celle qui revient le plus.
Je crois que c'était la question du temps.
Ah non, c'est combien ça va me coûter ?
Oui.
Alors en réalité, ça coûte très cher, mais pas d'un point de vue financier, parce que d'un point de vue financier, on peut toujours s'arranger. Moi par exemple, la première séance, elle est gratuite, et ça permet de se rencontrer, et notamment de réfléchir à la capacité de la personne à pouvoir s'investir, notamment financièrement. Vous ne pouvez pas demander à des personnes qui n'ont pas les mêmes revenus de payer les mêmes sommes. Ça, c'est pour moi, en tout cas, un point de vue éthique qui n'est pas partagé par tous mes collègues, ou en tout cas par tous mes confrères et toutes mes consoeurs. Mais pour moi, ça, c'est important. Mais, en tout cas, ce qui coûte cher dans une analyse, ben, c'est d'y aller. D'y aller toutes les semaines, de parler de soi à un inconnu, de prendre son téléphone et de dire « ça y est, là, je prends rendez-vous, le premier rendez-vous, et j'y vais et je passe la porte », ça, c'est ce qui coûte le plus cher, en réalité. Donc, c'est un investissement psychique. Ça a un coût psychique très important.
Pour encourager une telle personne qui n'a pas encore levé son téléphone pour vous appeler ou pour appeler un de vos confrères, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Le désir de comprendre. De comprendre comment on fonctionne, de comprendre ce qui nous structure, ce qui nous définit. Et ça, c'est un savoir sur nous-mêmes qui n'a pas de prix, en réalité. Combien même ça nous coûte d'y aller toutes les semaines. Savoir comment on fonctionne, c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps, malgré tout. C'est pas dans l'air du temps. Justement, l'air du temps, c'est de pas comprendre, éliminer le symptôme, et puis passer à autre chose. On veut pas voir, on met des œillères. Mais c'est quand même une satisfaction incroyable que de comprendre comment on fonctionne, comment on est structuré, et surtout de pouvoir aussi dépasser ces limites-là. Alors, par rapport, au-delà de ce désir d'y aller, il y a aussi bon, la question du temps, combien de temps ça va prendre. Ben, ça prendra le temps que vous voudrez bien vous donner, tout simplement. Les gens sont libres de venir quand ils veulent, et ils sont aussi libres de partir quand ils veulent. Voilà.
Samuel Cohen-Salmon, à la radio, vous allez nous proposer un cadre d'analyse des rêves. Comment est-ce que vous pensez organiser cet espace-temps ?
Alors déjà, ce sera très différent du cadre du cabinet d'analyse, puisqu'ici, il y a les techniciens, il y a de la lumière, il y a des gens qui écoutent, justement. Donc, on y avancera de manière plus prudente, sans aller trop dans les détails de l'intimité de la personne. Déjà, il faudra que, justement, l'anonymat soit respecté, l'anonymat des noms, et donc pas trop d'informations précises dans les rêves. Et puis, surtout, on ira vers des rêves courts, rapides, qui puissent s'adapter au format de la radio. Et, justement, l'idée, ce ne sera pas d'interpréter, mais d'analyser. Donc, je donnerai des pistes de réflexion, j'irai un petit peu questionner la personne pour faire émerger un petit peu ce contenu latent qu'il y a dans tous les rêves.
Écoutez, grand merci à Samuel Cohen-Salmon et bonne chance pour cette nouvelle émission que nous accueillons avec grand plaisir sur FM+. Merci.
Merci et puis on attend bien entendu rêveurs et rêveuses avec impatience.